Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. À toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui pour parler de Vladimir Poutine, du Kremlin, et plus généralement de la situation autour de la guerre en Ukraine évidemment, mais en se concentrant, disons, sur la question vue de Moscou, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, directeur de la publication de Desk Russie, qui est un média en ligne consacré à la Russie, qui existe depuis un peu moins d'un an, je crois.
Oui, exactement, depuis mai 2021.
Et qui, bon, disons, traite d'informations, d'analyses de fond sur la Russie et sur les pays de l'ex-bloc communiste. Je peux signaler aussi que vous avez un blog personnel qui s'appelle Tenzer Strategics. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre Jublin.
Alors, je veux dire, pour que les auditeurs sachent donc d'où vous parlez en quelque sorte, qu'il faut peut-être préciser tout de suite par rapport au sujet dont on va traiter, que vous n'êtes pas un immense admirateur de Vladimir Poutine, disons ça comme ça, que ça date pas d'hier, et que globalement, une bonne partie de vos écrits, mais comme la plupart des contributeurs de Desk Russie aussi, sont des critiques virulentes, voire très virulentes, ce qui ne les empêche pas d'être documentées du régime poutinien, dont vous dénoncez depuis longtemps les dangers et les ambitions expansionnistes, disons. Alors, il faut bien dire que c'est pas que l'histoire vous a donné raison, mais un peu quand même, et en tout cas, faut bien dire et constater que l'anti-poutinisme est devenu nettement plus mainstream sous nos latitudes depuis quelques semaines et depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors, c'est pas non plus qu'il n'y ait jamais eu de poutinolâtrie particulièrement répandue dans l'opinion publique ou même dans le personnel politique français, même s'il y a évidemment des exceptions notables. Mais il est en tout cas certain que le ton a changé depuis quelques temps et que le régime russe en général et Vladimir Poutine en particulier sont catégorisés très différemment depuis fin février dans le débat public, d'une manière, disons, qui comporte plus beaucoup d'ambiguïté et d'hésitation désormais, et c'est bien normal. Voilà, quand on envahit un pays illégalement avec des dizaines de milliers de morts, c'est un peu comme ça que ça se passe. Bref, dans tous les cas, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de se pencher, de se focaliser sur toute cette guerre, sur toute cette séquence vue de Moscou précisément. C'est une scène que vous observez depuis longtemps et sur la longue durée, ce qui va nous permettre d'explorer un peu un angle de la question qu'on n'a pas tellement abordé jusque-là dans le podcast, à savoir la logique d'ensemble d'une entreprise qui, dans son volet qui est la guerre en Ukraine, a largement surpris, en tout cas vu de Paris. Alors puisqu'on a un peu le loisir de prendre la question sur la longue durée pour essayer d'en saisir la cohérence, ma première question elle porterait sur Vladimir Poutine pour essayer de saisir d'où il vient. Donc ça va être très large, mais tirez la question et le sujet dans le sens que vous voulez. Voilà, quand il accède au pouvoir, à peu près au moment du passage à l'an 2000, qui est-ce que c'est Vladimir Poutine? Et qu'est-ce que son parcours dit de ce qui va devenir?
Alors d'abord, il faut le rappeler, même si c'est bien connu maintenant, Vladimir Poutine est un ancien agent du KGB qui a sévi particulièrement à Dresde, donc l'ancienne Allemagne de l'Est, où il a eu un rôle extrêmement actif, évidemment de lien avec la Stasi, mais également, et c'est un point qui est assez notable, il est en tout cas fortement soupçonné d'avoir entretenu aussi des liens avec la Rote Armee Fraktion, ce qu'on appelle plus communément la bande à Bader, c'est-à-dire un mouvement terroriste allemand qui sévissait dans ces années et dont certains crimes auraient pu, en tout cas c'est une hypothèse qui est lancée notamment dans un livre absolument remarquable par Catherine Belton, qui est une ancienne journaliste du Financial Times. Ce livre s'appelle Putin's People, les gens de Poutine, et qui dit qu'il y a quand même un certain nombre de faisceaux de preuves qu'il aurait donc aidé notamment ce mouvement, au-delà des actions traditionnelles d'un agent du KGB. Il a aussi aussi une longue histoire personnelle avec un certain nombre de ses proches qui ont été membres aussi du NKVD, donc une ancienne officine évidemment de renseignement à l'époque de l'Union soviétique. C'est quelqu'un aussi dont la famille a été très marquée par notamment le siège terrible de Saint-Pétersbourg, hein, qui est la ville de Vladimir Poutine. Et puis, cet homme, au sortir de la guerre, s'est essayé de reconvertir tout en gardant des liens extrêmement...
De la guerre froide, évidemment.
De la guerre froide, bien sûr, et de l'effondrement du mur de Berlin. Et donc, il s'est reconverti en gardant des liens extrêmement forts avec les anciens agents du KGB, notamment. Ça fait une forme de clan. Et il est assez vite devenu l'un des collaborateurs principaux du maire à l'époque de Saint-Pétersbourg, Sobchak, et à ce moment-là, il a entretenu aussi beaucoup de liens, non seulement avec ses anciens agents, mais également avec une série d'organisations mafieuses. Donc il y a un lien très ancien entre Vladimir Poutine, le crime organisé et ses agents. C'est-à-dire que tous font partie en quelque sorte du même groupe, du même clan, à la fois servant à détourner les richesses, à prendre possession d'un certain nombre de biens, à placer des personnes au poste évidemment très important. Et à partir de là, et notamment aidé par Sobchak, Poutine est arrivé au pouvoir en prenant des fonctions importantes au sein, présidence sous Eltsine, jusqu'à devenir Premier ministre en 1999 et d'être adoubé à Barbara Eltsine, à ce moment extrêmement malade, pour la future présidentielle.
Mais alors pourquoi? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il avait de part? Parce que, enfin, je veux dire, on décrit ça souvent comme le moment des oligarques où tous ces gens sont mis à piller, à se partager les richesses de la Russie, les décombres de l'URSS. Bon, qu'est-ce que Poutine, pourquoi est-ce que Poutine, l'ascension de Poutine fonctionne dans ces milieux, donc entre Saint-Pétersbourg et Moscou? Qu'est-ce qu'on lui trouve? Comment est-ce qu'il joue pour arriver jusqu'à ces positions de pouvoir?
Alors d'abord, il apparaît comme quelqu'un d'extrêmement discret, travailleur, organisé, un bon fonctionnaire, si j'ose dire, qui obéit aux ordres, qui apparemment ne fait pas d'ombre. Hein, quand on voit d'ailleurs les photos de Vladimir Poutine à ce moment-là, il apparaît comme un personnage un peu terne, un peu pâlot, mal habillé, qui fait un peu figure de l'ancien agent, discret. Et il bénéficie aussi, placé à des postes de responsabilité, de tous ses agents, de tous ses amis, hein, ceux qu'on appelle les Siloviki, c'est-à-dire tous ces anciens du KGB qui se reconstituent. Et certains autour de Boris Eltsine considèrent que c'est un bon organisateur. Ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est une petite comparaison avec Staline. Hein. Je veux dire, Staline aussi, d'ailleurs, dans sa prise de pouvoir après Lénine, apparaissait aussi comme cette espèce de fonctionnaire doué, compétent, capable de faire les choses, de mettre les choses en ordre dans ce bazar qu'était, il faut le rappeler, cette fin de présidence Eltsine avec des clans qui se battaient pour, disons, mettre la main sur les richesses du pays. Et lui, il apparaît, à tort évidemment, et beaucoup de ceux qui l'ont poussé après s'en sont mordus en quelque sorte les doigts, comme une sorte de fonctionnaire discipliné qui finalement, comme il avait un rang certes d'officier supérieur, mais quand même pas de général, c'était pas une figure proéminente du KGB, quelqu'un sur lequel, je dirais, on pourrait avoir une certaine emprise, voire qu'on pourrait manipuler.
C'est-à-dire personne ne se méfiait de lui, il n'était pas suffisamment visible pour être éventuellement quelqu'un à abattre ou à éliminer, c'était en quelque sorte un choix de consensus, tout le monde pouvait espérer peser sur
voilà,
sur
même, un même s'il y avait eu déjà un certain nombre quand même de signaux d'alerte, que décrit là aussi assez bien Catherine Belton dans son livre, des signaux d'alerte, mais qui n'ont pas été véritablement entendu par Boris Eltsine. Et puis, au moment où donc, il devient Premier ministre, vous avez ces fameux attentats que vous connaissez, dans les régions proches de Moscou, 3 attentats avec des immeubles détruits, et Poutine accuse...
Alors, des attentats par qui ?
Alors, bah, justement, c'est ça la question. C'est-à-dire qu'officiellement, ils sont mis au compte de Tchétchènes, mais il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites par la suite, sur lesquelles quelqu'un comme David Satter, notamment, a beaucoup écrit. Et il y a de fortes concordances qui laissent penser qu'en fait, ils ont été organisés par le KGB. Mais il est évident, à ce moment-là, ce sont les Tchétchènes qui sont accusés. Et ce qui donne le prétexte, alors même que Poutine n'est que Premier ministre, pas encore président, de lancer cette seconde guerre de Tchétchénie, une guerre d'une brutalité terrible, où des crimes de guerre absolument massifs sont commis contre des zones tchétchènes, notamment la ville de Grozny, qui est complètement pulvérisée, détruite, anéantie, voilà, et qui sur laquelle, d'ailleurs, par la suite, devait faire des enquêtes des gens comme Anna Politkovskaya, Natalia Estemirova et aussi Boris Nemtsov, tous d'ailleurs assassinés, sans parler de quelques autres, sans parler des organisations des droits de l'homme. Et donc, tout ceci booste en quelque sorte la popularité aussi de Vladimir Poutine, qui apparaît comme le chef des guerres contre l'ennemi. Et pour l'élection présidentielle de 2000, il arrive dans cette position de chef de guerre, de celui qui va défendre le pays, défendre la patrie, par rapport à ces années un peu molles, même s'il y avait déjà eu en 1994 la première guerre de Tchétchénie, mais ces années un peu molles de déliquescence de Vladimir Poutine, où il dit, voilà, on va remettre la patrie, les valeurs, c'est la sécurité qui est en jeu. Donc il refait toute cette rhétorique qui lui permet d'accéder au pouvoir.
On peut mentionner, soit dit en passant, on l'avait déjà dit dans un podcast qui remonte un peu, mais qui s'appelle Facon, que ces deux guerres de Tchétchénie, c'est aussi d'immenses démonstrations d'impuissance de l'armée russe, qui en est réduite en quelque sorte à pilonner Grozny parce qu'ils n'arrivent pas à y pénétrer, ils n'arrivent pas à prendre la ville efficacement, ce qui évidemment peut faire penser à des théâtres un peu plus récents et un peu plus contemporains.
Non, mais c'est un point très important, parce que, par exemple, si on prend Alep, aujourd'hui Mariupol en Ukraine, mais enfin Alep en Syrie, ça a été vraiment quelque chose de très répétitif, si j'ose dire, par rapport à Grozny, effectivement, avec des frappes aériennes indiscriminées. Il s'agit d'éliminer tout le monde, de tuer, parce que précisément, on ne peut pas faire d'opérations ciblées. L'armée russe, vous l'avez rappelé très justement, on est incapable de faire des opérations ciblées sur des zones qui auraient été occupées par des combattants tchétchènes à l'époque.
Alors, on arrive donc à ce moment de prise du pouvoir, cette élection de l'an 2000, mais alors, bon, c'est le chapitre 1, mais comment est-ce qu'il s'organise ce pouvoir poutinien ? Donc, vous nous avez décrit en quelque sorte les réseaux de l'ascension autour de ces anciens du KGB, puis ensuite, une fois qu'il est, j'allais dire calife à la place du calife, mais plutôt tsar à la place du tsar en l'occurrence, mais justement, d'ailleurs, on ne devient pas tsar en une nuit, on peut devenir président, mais ensuite il faut consolider ce pouvoir, il faut établir une emprise sur la société, sur l'appareil politique russe. Comment est-ce qu'il procède ? Disons, quels sont les réseaux, quel est l'appareil de pouvoir qui se met en place?
Alors,
à ce moment-là,
vous avez en fait, j'allais dire, deux appareils de pouvoir un tout petit peu distincts. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un certain nombre de réformateurs réputés libéraux qui arrivent au pouvoir, aux manettes, à l'économie, pour soi-disant remettre un peu de l'ordre. Très vite d'ailleurs, Poutine va bénéficier d'une hausse assez notable du prix des matières premières, notamment évidemment gaz et pétrole, ce qui lui donne aussi une assise économique et qui lui permet de présenter aussi Moscou, puis Saint-Pétersbourg comme des vitrines économiques avec une transformation. Donc il adhère à la vision d'un capitalisme et il dit qu'il veut mettre fin aux abus de l'ère Elstein, ce qui est évidemment totalement faux, ce qu'on a bien vu par la suite. Donc il a quelques modernisateurs, si vous voulez, dans les milieux économiques, tout en renforçant évidemment par ailleurs l'emprise d'un certain nombre de ces personnes à lui, les anciens Siloviki, les anciens agents du KGB qui contrôlent évidemment de plus en plus l'appareil de sécurité. Il met en place déjà, même s'ils ne sont pas totalement dominants au début, des médias qui sont à la solde du pouvoir. Et c'est-à-dire qu'il y a un troisième cercle, qui est le cercle des fameux oligarques, dont certains après d'ailleurs se séparent de Poutine et connaissent un sort fatal pour une série de raisons, pensez à Berezovski notamment. Mais il met en place tout un réseau d'oligarques qui il donne en quelque sorte la clé des grandes entreprises russes qu'ils vont démanteler, qui sont des entreprises en fait qui ont pu prospérer à un certain moment, pas toujours au début de manière parfaitement, évidemment, licite, hein, il va sans dire, à l'époque de l'ère Helsinki. Et l'un des tournants, ça a été en 2005, l'opération de démantèlement et de liquidation et de vente par étage de Yukos, hein, vous savez, le fameux géant pétrolier qui appartenait à Mikhail Khodorkovsky, qui a été vraiment un tournant parce qu'il s'agit d'une expropriation pure et simple. Et petit à petit, vous allez avoir des gens de Poutine qui vont mettre la main sur les secteurs clés de l'économie.
On ne va pas pleurer par ailleurs sur Khodorkovsky. Enfin, c'est une sorte d'une guerre d'oligarques interne.
Oui, alors, mais ce qui est frappant, c'est que Khodorkovsky a bénéficié d'une série de dispositions légales, malgré tout, même si elles étaient évidemment particulièrement avantageuses, qui était la vente par appartement des anciennes entreprises soviétiques, en quelque sorte, et qui ont pu être rachetées à bas prix. Là, on a quelque chose qui change avec Poutine, c'est-à-dire que sous Helsinki, c'était une sorte de désordre organisé qui laissait prise à tous ces oligarques. Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus organisé, avec un lien direct entre l'État et un certain nombre de personnes, y compris d'anciens agents d'ailleurs du KGB, qui vont mettre la main sur toutes ces entreprises. Et ça, c'est une distinction absolument majeure par rapport à l'ère Helsinki, où Helsinki n'avait pas cette espèce de plan tout à fait contrôlé. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans le secteur des médias, où vous avez des proches de Poutine qui mettent petit à petit la main également sur des médias qui pouvaient être au début quand même relativement indépendants, voire critiques hein, d'ailleurs, vis-à-vis du Kremlin. Et c'est cette emprise-là qui petit à petit se met en place, avec une direction autoritaire et un placement, enfin comment dire, une forme, plutôt que de placement, je dirais une forme d'échange hein, qui est apparue après, par la suite, entre ces oligarques et Vladimir Poutine. D'un côté, Poutine leur dit, bah, écoutez, vous pouvez vous enrichir, vous me rendez quand même aussi un certain nombre de services, personne ne bronche, évidemment, il va s'en dire, mais en gros, vous allez avoir accumulé des immenses fortunes, ce qu'ils ont fait, évidemment, on le sait. Et d'un autre côté, vous avez aussi un certain nombre de ces oligarques, on peut penser à des gens comme Timchenko, etc., ou d'autres, qui, semble-t-il, d'après quand même beaucoup d'informations concordantes, vont aider Vladimir Poutine à accumuler lui-même. Ce qui est très frappant, une richesse aussi considérable. Hein. Il y a eu évidemment le fameux film, vous savez, de l'équipe de Navalny sur le fameux palais de Poutine, mais vous avez aussi beaucoup d'investigations qui font état de biens de Vladimir Poutine sous des prête-noms divers, mais qui ces prête-noms étant quand même des sociétés qui sont directement ou indirectement, avec des montages financiers extrêmement complexes, que je ne vais certainement pas décrire ici, qui appartiennent à un certain nombre de proches du pouvoir. Donc vous avez cette espèce d'échange de vues.
C'est assez fascinant comme truc parce qu'on se... Enfin bon, c'est peut-être une vision un peu naïve, mais on se demande qu'est-ce qu'il va en faire. Je veux dire, Vladimir Poutine est le maître du Kremlin, de la Russie, etc. On se demande quel besoin il a d'accumuler personnellement ces choses-là. On pourrait imaginer qu'il laisse les oligarques s'enrichir et que lui, il détient le pouvoir politique par une sorte de partage des rôles. Et ce que vous nous décrivez, c'est que non, en fait, il faut quand même s'enrichir soi-même, sinon, sinon on ne peut pas jouer avec les autres. Quoi.
Voilà, mais vous savez, c'est vraiment un système mafieux. Hein. Quand vous avez un certain nombre d'anciens chefs mafieux en Italie, je sais pas, on pense à un qui est connu, qui était Totò Riina, qui était un criminel monstrueux, qui est mort finalement en prison en Italie, qui était un des chefs mafieux les plus cruels, mais enfin, dans les détails, dans les raffinements terribles, et qui vivait relativement modestement dans une pauvre bergerie quelque part en Sicile, mais qui avait par ailleurs une fortune absolument colossale et qui lui ne l'étalait pas. Là, on est dans le même système mafieux. Hein, c'est pour ça que je crois que c'est très important de rappeler ces liens anciens entre le crime organisé à Saint-Pétersbourg et Vladimir Poutine, mais une attitude de c'est une image hein, un peu qui est un peu empruntée à Montesquieu, mais enfin de potentat oriental en quelque sorte. Hein. On voit ça d'ailleurs avec un certain nombre d'autres chefs d'État ou de gouvernement dans le monde hein, qui accumulent des fortunes délibérées. Pourquoi avoir effectivement une écurie de 35 voitures de luxe, de multiplier les propriétés à Paris, Londres, New York ou que sais-je encore. Tout ceci est complètement disproportionné, mais traduit aussi, je pense en termes de psychologie, assez bien une des caractéristiques de la psychologie de Vladimir Poutine qui est totalement sous-estimée.
Alors, si on entre un peu dans le détail, mais même de ce que vous décriviez à l'instant, il y a ce lieu commun qui court souvent, que Poutine aurait remis en ordre la Russie, en quelque sorte, pendant cette période-là, bon, disons, appelons ça la décennie 2000, même si on peut discuter des bornes, qu'il aurait inversé la tendance qui était à la désagrégation et, bon, ça, ce qui est avéré, une catastrophe économique et sociale sous Eltsine. Effectivement, on sait que l'espérance de vie des Russes a chuté massivement pour tout un tas de raisons, parce que l'État se délabrait quasiment en temps réel. Mais, alors, on se doute bien que la réalité est plus compliquée que ça, et je vous pose pas la question pour que vous me fassiez les louanges de Vladimir Poutine, je pense qu'on aura compris que ce serait vain, mais tout de même, disons, qu'est-ce que vous pensez de ça, est-ce qu'il y a une part de vérité, même, bon, on peut rétablir l'ordre aussi de manière extrêmement néfaste, mais est-ce qu'il y a une part de vérité dans le fait que, bah, en tout cas, il y a une... Bon, on arrête en quelque sorte la désagrégation sans fin de ce qui restait de l'État soviétique.
Alors, il y a deux choses importantes dans votre question. D'abord, revenons peut-être une seconde quand même sur l'ère Eltsine. L'ère Eltsine, vous l'avez tout à fait bien rappelé, a été vécue par une très grande majorité de Russes comme une catastrophe économique et sociale. Et à juste titre. Ce que me rappelaient tous mes interlocuteurs russes à l'époque où j'allais très souvent en Russie, c'est que c'était un moment de panique, de détresse absolue, un moment d'anomie, pour reprendre un terme emprunté à Durkheim, c'est-à-dire d'absence totale de normes, de règles, etc. Ça, c'était la vérité. Et en même temps, moi, ce que me disaient mes amis intellectuels, qui d'ailleurs, depuis le moment où j'allais en Russie, ont quasiment tous quitté, parce que c'était intenable pour eux pour des tas de raisons, et en même temps, c'était une ère de liberté extraordinaire. Mais une ère de liberté telle que l'apercevait une petite minorité, bien sûr, d'intellectuels qui espéraient évidemment autre chose et qui espéraient la fin de cette ère. Poutine arrive et c'est plutôt la Gleichschaltung, c'est-à-dire la mise au pas. Hein, la mise au pas, je dirais, des oligarques. Une partie de redressement économique, ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, qui était dû quand même au boom du prix de l'énergie. Et ça, c'est un facteur majeur qui a entraîné, quand vous allez à Moscou et Saint-Pétersbourg, dans quelques rares autres villes, mais pas tellement plus, vous avez cette façade rutilante, effectivement, de villes modernes, pas toujours très agréables. Saint-Pétersbourg, oui, Moscou, à mon avis, beaucoup moins, parce que c'est une ville extrêmement brutale par ailleurs. D'ailleurs, la disparition aussi des certains vieux quartiers de Moscou qui ont été rasés au profit d'immeubles, dont le prix au mètre carré, d'ailleurs, envie largement celui de Londres ou de New York. Hein, c'est aussi une des réalités. Sur le plan, effectivement, législatif, formellement en tout cas, beaucoup plus de règles. Et un fait simple, c'est que les fonctionnaires étaient payés mal, mais en tout cas qu'il y avait aussi beaucoup pour eux une capacité de s'enrichir autrement, et donc un boom de l'économie, mais avec une limite quand même très puissante. C'est que si vous regardez ce qu'on pourrait appeler, disons, l'économie réelle du pays, c'est-à-dire le tissu notamment des petites entreprises, des PME, il est dans un état absolument catastrophique. C'est-à-dire que vous avez des géants des matières premières qui, elles, ont permis à partie, je dirais, de cette prospérité très relative de l'économie russe, hein, parce que hein, le PIB, c'est un peu au-dessus de l'Espagne, hein, donc c'est quand même pas très élevé, le PIB par tête est quand même désastreux. Vous avez une grande pauvreté qui croît aujourd'hui en Russie, qui est considérable, une espérance de vie qui rechute. On l'a vu aussi avec la crise de la Covid-19, un bilan d'environ 1 million de morts, donc par tête d'habitants, un des bilans les pire qu'il soit, le maintien de morts aussi prématurées dues à l'alcoolisme, au sida aussi, ce qui est un facteur très, très ignoré, je dirais, en Russie. Donc vous avez en fait une économie totalement, totalement duale, en quelque sorte.
Oui, mais en même temps, on peut dire que les PME, ça devait partir d'assez bas. Enfin, je veux dire, avec la chute de l'URSS,
Oui, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout reconstruit les bases de l'économie. De même,
ça... Il n'a pas construit les bases d'une économie libérale occidentale, libérale, capitaliste.
Mais avec tout ce que ça vaut aussi en termes d'infrastructures routières, d'infrastructures urbaines, c'est-à-dire que dès que vous sortez de certaines grandes villes, le pays apparaît comme un pays vraiment pauvre, presque comme un pays du tiers-monde, et un niveau de vie aussi, encore une fois, extrêmement, extrêmement bas, extrêmement catastrophique, des gens en perdition, des écoles qui sont dans un état de délabrement terrible, une grande partie des élites, il ne faut jamais l'oublier, qui a fui le pays, je n'ai plus tous les chiffres en tête, mais l'exil des Russes, et notamment des plus capables, est considérable, une fuite des capitaux, évidemment, absolument monstrueux, c'est-à-dire des capitaux évidemment qui ne s'investissent pas en Russie, alors bien sûr largement de la part de ces oligarques, mais aussi d'un certain nombre d'autres personnes, une classe moyenne en fait qui n'existe pas, aussi pour une raison très simple, ou qui existe peu, parce que cette classe moyenne aurait représenté une opposition, en quelque sorte de choix, quelque sorte naturel à Vladimir Poutine. Et avoir une grande société avec une grande classe moyenne, c'était aussi un danger pour le pouvoir de Vladimir Poutine. Donc on n'a pas du tout un scénario à la chinoise. On n'est pas du tout dans ce type de système de boom économique. Et on a plutôt tous les indicateurs sur le moyen terme, ce que j'avais déjà écrit dans un bouquin qui était paru en 2011. On a plutôt tous les indicateurs d'un affaiblissement durable de la Russie. La Russie, comme grande puissance, est condamnée à une échéance, je ne pourrais pas dire, de 20 ans ou de 30 ans, à disparaître du monde comme grande puissance. Et ce que l'on voit aujourd'hui, on va y revenir certainement, disons, des difficultés ou des malheurs de l'armée russe en Ukraine, bon, une relativement bonne nouvelle, enfin, il n'y en a pas beaucoup quand même pour les Ukrainiens, mais enfin, quand même tout ce qui apparaît à travers cela, à travers la désorganisation, la corruption, l'absence de logistique, c'est aussi un signe de cette faillite, en quelque sorte, du pays. В дурные дела под раз и наглотался какой-то мути. Он так меня достал, я его прогнала. И я хочу теперь такого, как Путин, такого, как Путин, полного сил, такого, как Путин, чтобы не пил, такого, как Путин, чтоб не обижал, такого, как Путин, чтоб не убежал.
Là, on a compris, on a un peu l'évolution sur le long terme du pouvoir poutinien, en tout cas ce qu'il met en place et ce qu'il ne met pas en place, pour diverses raisons que vous nous avez exposées. Mais du point de vue international, stratégique, disons sur la scène mondiale, alors on peut rappeler que la Russie, c'est vrai, a été dans un état de délabrement, mais d'un point de vue international, ils avaient toujours cette espèce de statut de grande puissance nucléaire au Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. Donc, bon, il y avait toujours cette idée que derrière, même si, disons, la peinture s'effritait, il restait les fondations qui étaient que la Russie était destinée à rester une grande puissance du fait notamment de son statut de puissance nucléaire. Mais ça n'empêche pas que dans les relations internationales, bah, on a vu qu'on est aujourd'hui à la fin, disons, de cette évolution, mais on a vu qu'il y a eu une évolution voilà, au cours des années 2000 et puis 2010. De une Russie qui réapparaît de plus en plus affirmative, de plus en plus vindicative, qui se déclare menacée, qui en tire des conséquences et qui fait des gestes ouvertement hostiles envers, en tout cas, le bloc occidental. Est-ce qu'on peut trouver un point de départ, un shift, en quelque sorte, dans ce positionnement poutinien? Est-ce que c'est, par exemple, on parle parfois du discours de Munich, où Vladimir Poutine déclare que la Russie est menacée, ou peut-être de la guerre en Géorgie, ou avec les déclarations de candidature de la Géorgie et de l'Ukraine à l'OTAN. Bref, est-ce que c'est 2008? Est-ce que c'est un peu plus tard? On parle parfois des interactions avec Barack Obama, des boucliers antimissiles que les Américains projetaient de déployer en Europe de l'Est à ce moment-là. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver un point de départ d'agressivité, de retour d'agressivité, en quelque sorte, de la Russie de Vladimir Poutine sur la scène internationale?
Alors, c'est une question... disons assez difficile à disons à comment dire à traiter pour une raison très simple. C'est qu'il y a d'un côté la réalité de l'évolution de la scène internationale, vous en avez rappelé très justement un certain nombre d'étapes, et puis vous avez la matrice idéologique explicative. Pour moi, la matrice idéologique explicative, ça reste quand même, et vous pouvez reprendre certaines déclarations déjà de Vladimir Poutine en 2000 qui n'ont pas fait la une des médias comme le discours du 10 février 2007 à Munich, qui montre déjà que vous aviez cette envie de revanche manifeste et aussi ce propos de destruction et en tout cas d'absence totale de préoccupation des règles du droit international, des droits de l'homme, de la question des frontières. Voilà. Pour moi, la matrice explicative, elle est quand même dans la Seconde Guerre de Tchétchénie. C'est quand même à ce moment-là où quand même quelque chose d'extrêmement brutal se met en place, sur lesquels finalement très peu de personnes ont averti l'opinion. En France, vous en avez eu un, qui était André Glucksmann. C'était une des rares voix à dire « Attention, regardez ce qui se fait, ça porte des conséquences et ça peut en entraîner. » Ensuite, vous avez eu le 11 septembre, qui a gommé l'indignation d'ailleurs qu'avait créée cette guerre de Tchétchénie dans une grande partie de la communauté internationale. Et puis, petit à petit, Poutine a compris très bien l'intérêt qu'il pouvait avoir à endormir ou à cajoler les Occidentaux. Au début, vous avez eu Vladimir Poutine, au-delà de quelques déclarations à usage interne, comme déjà très hostiles à l'OTAN, etc., l'idée que l'OTAN n'était pas une mauvaise chose dans les premières années de son mandat. Et puis, effectivement, le tournant du discours de Munich du 10 février 2007 a été effectivement quelque chose de tout à fait remarquable, parce que là, il a désigné clairement un adversaire, voire un ennemi, qui était l'OTAN. Et donc, il a commencé, à partir de là, disons, à paraître beaucoup plus volontaire, en quelque sorte, dans ses déclarations d'hostilité. Mais encore une fois, je pense qu'il y a la réalité, de la matrice explicative, et puis la réalité, des différents faits. Cela ne veut pas dire, petite précision quand même, que Vladimir Poutine, en arrivant au pouvoir, ait eu immédiatement une sorte de stratégie totalement délibérée, parfaitement claire dans sa tête, une vision de long terme de ce qu'il voulait faire, ça probablement pas. Il faut faire très attention. Ensuite, il a plutôt saisi les opportunités. Effectivement, on y reviendra peut-être.
Alors justement, sans vouloir se faire l'avocat du diable, est-ce qu'on peut saisir quand même une sorte de logique de... Voilà, c'est le discours du régime russe et de ceux qui le reprennent. C'est qu'il y a une menace de l'OTAN parce que l'OTAN s'agrandit progressivement vers l'Est, etc. Et on peut dire que l'OTAN ne s'agrandit pas contre la Russie. Il est vrai que la plupart des pays, l'élargissement vers l'Est, la plupart des pays qui ont adhéré, comme la République tchèque, la Pologne, etc., l'ont fait, y compris pour se protéger d'éventuelles velléités russes. Donc,
heureusement d'ailleurs.
Oui.
A posteriori, heureusement.
Aujourd'hui, oui. Mais du coup, est-ce qu'on peut... C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une vraie logique interne, sincère... Enfin, sincère, c'est toujours compliqué, on ne sonde pas les reins et les cœurs, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une vraie psychologique de une Russie qui se sent menacée vraiment, réellement, stratégiquement, presque existentiellement, certains diraient, par l'OTAN et son élargissement progressif.
Alors, la Russie en tant que telle n'est pas menacée, et ça, je pense
non,
que
mais
ça fait...
Soit
non,
pas.
Non, mais je pense que c'est... Attendez. Je pense que c'est une perception que Vladimir Poutine et, bien sûr, les propagandistes du régime veulent faire croire à une partie des populations occidentales. Et qui est d'ailleurs reprise par un certain nombre de personnes, en France notamment et ailleurs, qui sont complaisantes. Quand je dis perception, c'est perception d'une perception. C'est-à-dire qu'il veut nous faire percevoir comme s'il pensait qu'il avait réellement cette perception. Ce qui ne veut pas dire qu'il l'est effectivement.
Je pense pas dire qu'il ne l'est pas non plus.
Alors, il n'y a pas cette perception. Et en revanche, là où il y a une perception réelle, me semble-t-il, c'est, et d'ailleurs ça, Poutine n'en a pas fait mystère, en disant que pour lui, la plus grande catastrophe, c'était l'effondrement de l'URSS, ça il l'a dit explicitement, c'était que c'est, bien sûr, avec la libération de ces peuples du joug communisme, soit les pays du bloc, les anciens pays du pacte de Varsovie, soit les anciennes républiques internes à l'URSS qui ont retrouvé leur indépendance, notamment les pays baltes et l'Ukraine, la Géorgie, etc. C'est la dislocation de la sphère d'influence, qui était d'ailleurs une sphère de domination. C'est-à-dire la mainmise, pour traduire ça en langage occidental, la mainmise de la Russie sur un certain nombre de ses colonies. Et ça, effectivement, ça c'est évidemment une perception qui apparaît que assez nettement, c'est-à-dire que Poutine n'a jamais accepté la disparition d'une zone d'influence. Alors même, effectivement, que cette disparition avait été actée dans la charte de Paris de 1990, bien avant d'ailleurs par la charte des Nations Unies, enfin bon, tout ceci sur le plan du droit est clair. Et là, effectivement, il reçoit ça comme une forme, alors je dirais pas d'humiliation, mais en tout cas de limite à son pouvoir de contrôle absolu sur ces républiques. Ce qu'il n'accepte pas, c'est que sont que des peuples libres et indépendants à ses frontières puissent se dire, bah, écoutez, nous, nous sommes libres et indépendants. Mais en revanche...
Mais dans quelle mesure est-ce que c'est un truc... parce qu'on psychologise beaucoup Vladimir Poutine et on va continuer à le faire, parce que voilà, c'est le jeu en ce moment, enfin, ça, on en a un peu réduit là. Est-ce que c'est un truc très personnel, très individuel, ou est-ce que ça reflète quelque chose de plus large, peut-être dans les cercles dirigeants, peut-être dans les anciens du KGB, peut-être dans les militaires, etc. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est la psychose personnelle de Vladimir Poutine ou est-ce que c'est quand même une manière que les Russes ont de penser au monde, à l'Europe et en tout cas à leur position géostratégique, peut-être depuis plus longtemps?
Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout à fait notable. J'ai un certain nombre d'anciens agents du KGB, une partie aussi, on peut penser, de l'appareil diplomatico-militaire russe. Ce serait à peu près l'équivalent, si vous voulez, comme si vous aviez en France ou au Royaume-Uni une nostalgie pour la perte de l'Empire colonial. Que ce mais soit les Indes, l'Inde du côté Royaume-Uni ou nos anciennes colonies en Afrique ou en Afrique du Nord côté français. C'est à peu près cet équivalent. Et donc, le problème, c'est qu'à un certain moment, nous, ou les Britanniques, etc., nous avons évidemment accepté l'indépendance de ces colonies et que vous avez tout ce cercle-là qui ne l'a pas accepté. C'est ça la différence. Alors que cette perception, effectivement, soit en partie réelle, oui, là pour le coup, bien sûr, mais ça veut dire aussi que c'est l'idée que la Russie ne puisse plus contrôler le destin de ses peuples qui apparaît à ces gens-là comme quelque chose de totalement insupportable. Là où il y a un bémol, c'est qu'on peut penser que dans les années Yeltsin, c'était tout à fait le contraire. C'est-à-dire que Helsinki a parfaitement accepté, Gorbatchev avec certainement beaucoup plus de réticence, mais Helsinki certainement, la disparition de cette zone d'influence et la concentration sur la Russie. Mais quand Helsinki a signé l'acte fondateur de l'OTAN avec l'OTAN en 1997, il y avait quand même aussi l'idée que la Russie pourrait avoir avec ceux qu'on appelle les alliés, hein, que ce soit d'ailleurs les États-Unis ou le Canada et évidemment les pays européens membres de l'OTAN, une relation de coopération. Il ne faut pas oublier aussi qu'à cette époque, et dans les premières années de Poutine, aussi l'Europe a apporté considérablement à la Russie. La Banque européenne de reconstruction et développement a considérablement investi. C'est-à-dire que l'Europe et l'OTAN ont joué avec l'idée qu'on pouvait entraîner la Russie avec soi dans une attitude coopérative. Et c'est précisément cette coopération, mais qui eût supposé une évolution du régime russe vers plus de démocratie, qui a été refusé par Vladimir Poutine. C'est-à-dire que ce que Poutine refuse, c'est non seulement la perte de cette zone d'influence, mais aussi l'idée qu'il puisse y avoir des démocraties libres de choisir leur destin à ses côtés, à ses portes. C'est aussi ça, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire abstraction, si vous voulez, de cette idée-là, du contexte politique qui est le profond illibéralisme du maître du Kremlin.
Ce que j'allais dire, c'est est-ce qu'on peut relier ça à, disons, des catégories plus fondamentales de représentation géostratégique ? Typiquement, on voit quand... Il suffit d'écouter 20 minutes Vladimir Poutine pour comprendre que le truc des petits pays, il comprend pas trop, quoi. Enfin, le truc qu'il y ait des pays qui se gouvernent eux-mêmes et qui choisissent eux-mêmes d'adhérer à l'OTAN, à l'Union européenne ou pas, c'est pas un concept qui lui parle beaucoup, et pour lui, c'est... D'ailleurs, c'est pas le seul, hein, même dans le paysage politique français, pour lui, c'est soit les États-Unis, soit la Russie, soit éventuellement l'Union européenne, mais même ça lui parle pas trop. Enfin bon, en tout cas, on a l'impression qu'il perçoit, et probablement autour de lui aussi, le monde en grand bloc et en grande puissance hégémonique, et que, en fait, c'est les seuls acteurs qui comptent vraiment, et ensuite, les autres pays s'agrègent en fonction, en quelque sorte, de la puissance d'attraction presque physique, quoi, comme presque gravitationnel de ces grands blocs. Est-ce que ça vous paraît juste, disons, comme manière de caractériser les choses, ou est-ce que c'est plus compliqué, il y a aussi du cynisme, de la mauvaise foi, ou est-ce que c'est vraiment une manière de percevoir les choses, quoi?
Alors, Je pense qu'il y a un peu des deux. D'abord, il y a ce mépris pour ce que Milan Kundera appelait les petites nations. C'est parfaitement évident. Il y a aussi une partie de cynisme dans la mesure où cela cache une volonté absolue de domination. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, Vladimir Poutine considère qu'il y a les nations qui importent et celles qui n'importent pas. Mais je peux dire que dans une partie du monde politique, parfois même militaire, disons-le, en France, il y a aussi la même tendance. Moi, quand je disais régulièrement à un certain nombre de personnes politiques ou placées, je ne citerai personne, mais l'Ukraine a autant le droit à la considération et au respect et à des visites officielles que la Russie. J'étais regardé parfois un peu bizarrement. Certains considèrent, moi je l'ai vu même lors d'une audition au Sénat, où vous voyez un certain nombre de sénateurs qui disaient « mais enfin, l'Ukraine c'est la Russie », donc reprenant tout le narratif de Poutine. Donc vous avez cette tendance, pas uniquement en Russie, mais en Russie aussi bien sûr, sur laquelle ce qui importe sont les grandes nations, les grands pays, ce sont à eux de définir l'ordre du monde, et que les peuples, finalement, les peuples libres et les peuples qui s'incarnent dans des petites nations n'ont pas le droit, en quelque sorte, à la parole, ou une sorte de droit secondaire. Donc vous avez certainement cette vision très hiérarchisée, qui après sert, évidemment, comme instrument à la volonté, je dirais, de domination de Vladimir Poutine. Et ce qui me paraît inquiétant, c'est pour ça que je faisais aussi allusion à un certain nombre de milieux français, mais pas uniquement français, c'est que vous avez certaines personnes qui sont en train d'apporter de l'eau à son moulin, en quelque sorte, en considérant aussi implicitement que vous avez un ordre du monde hiérarchisé, où vous avez des nations qui ont plus de droits que d'autres, qui remet en cause les principes quand même fondamentaux de la Charte des Nations Unies, du droit international, ouais, etc.
On pourrait vous dire, il n'y a pas de nations qui ont plus de droits que d'autres, il y en a d'autres, il y a des nations qui ont plus de forces militaires et notamment d'armes nucléaires que les autres, et que ça met une hiérarchie dans l'ordre international.
C'est-à-dire que vous avez une hiérarchie, mais justement, c'est-à-dire que vous avez aussi un devoir fondamental des nations, y compris les plus importantes, et y compris bien sûr les puissances nucléaires, de faire respecter cet ordre international fondé sur la liberté des peuples et des nations. C'est-à-dire qu'on peut renvoyer à cela. C'est-à-dire que vous avez un devoir de garantie, de protection, précisément au nom des valeurs qui sont les nôtres.
Un devoir quoi,
mais moral. Vous avez derrière... je pense que vous avez deux choses. Vous avez d'abord un devoir moral, mais ce qui n'a pas beaucoup d'importance, dira-t-on, sur le plan international, encore que je pense que ce soit assez révélateur. Je veux dire, le mépris de la morale, j'ai écrit ça récemment dans un long papier, c'est que je crois que l'absence de respect pour les règles morales humanitaires, en particulier par des crimes de guerre, traduisent aussi, parce qu'on n'y fait pas assez attention, une cécité par rapport, on y reviendra peut-être par rapport à tous les signes avant-coureurs des stratégies de Poutine, ne traduit pas assez une préoccupation et une compréhension de la nature du régime qui commet de tels crimes et de telles agressions. Et puis vous avez surtout un devoir en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement ça a été dit 100 fois, mais c'est vrai, moi je vous le dis depuis le début, depuis 2014, l'Ukraine défend d'abord les valeurs européennes, et le fait, je dirais, par procuration en notre nom, d'une certaine manière, mais l'existence de petites nations libres, en termes de sécurité, représente pour les autres démocraties, y compris les plus grandes, Royaume-Uni, France, États-Unis, etc., représente un atout absolument considérable. C'est-à-dire que notre sécurité, si les petites nations, entre guillemets, sont menacées, s'en portera certainement moins bien.
Oui, vous voulez dire que si on laisse les Sudètes, d'une manière générale, les puissances expansionnistes ont tendance à aller toujours plus loin, quoi.
Voilà, et comme vous le savez aussi, le premier exemple en Europe de révision des frontières par la force après l'annexion des Sudètes par l'Allemagne d'Hitler, ça a été la Crimée en 2014.
Donc ça, c'est pour, disons, la vision géostratégique. Il y a une deuxième chose sur laquelle... On a l'impression qu'il y a aussi un truc très personnel et très personnalisant chez Vladimir Poutine, notamment dans les relations internationales. On sait que, par exemple, il avait des relations tout à fait exécrables avec Barack Obama, Bon, avec Trump, c'était autre chose, compliqué. Avec, mais il détestait personnellement énormément Hillary Clinton. Et c'est aussi pour ça, peut-être, que certaines choses sont passées autour de 2016. Et, mais je pensais, enfin, c'est presque une intuition, mais quand on voit même la manière dont ils ont essayé de procéder en Ukraine, avec l'idée que, bah, il suffisait de frapper à la tête, peut-être de renverser le pouvoir de Zelensky, et que bah automatiquement l'Ukraine tomberait tout entière en quelque sorte dans le giron russe, ce qui est un truc étonnant parce que quand on se renseigne un peu sur l'Ukraine, on voit que s'il y a bien un pays où le pouvoir central a peut-être pas une importance énorme, notamment le pouvoir politique central parce qu'il est décrédibilisé depuis des décennies maintenant, c'est probablement l'Ukraine et que c'est pas tellement le pouvoir central a pris de l'importance depuis, mais traditionnellement, c'est pas là que se tient qu'est le pouvoir politique en Ukraine. Bref, est-ce que ça vous paraît aussi être quelque chose de caractéristique de sa vision des choses, notamment internationale, ce fait qu'on discute entre grands, entre responsables politiques, et puis que les nations suivent leur cher leader, en quelque sorte?
Oui, alors je pense qu'il y a effectivement cette vision inspirée par la fameuse verticale du pouvoir hein, qui caractérise bien sûr le système qu'a mis en place Vladimir Poutine. Il y a cette idée que de toute manière les peuples n'ont pas le droit à la parole et donc ça le conduit aussi à totalement négliger et à minimiser ce pouvoir des peuples. Je pense pas que le facteur de haine personnelle d'ailleurs pour un certain nombre de dirigeants soit un élément majeur de sa stratégie internationale. Je rentrerai pas dans des considérations psychologiques. Beaucoup l'ont fait, ont essayé de faire une psychanalyse de Poutine, mais enfin tous les psychanalystes vous diront qu'une vraie psychanalyse, ça se fait en tête à tête avec quelqu'un sur un divan. Là, c'est pas le cas, on le voit mal d'ailleurs allongé sur un divan. Mais je pense que ce ne sont pas les questions des relations personnelles ou des aigreurs personnelles qui importent. Je pense que c'est vraiment non seulement une clé de compréhension du monde, mais une clé de compréhension qui a des résultats dans l'action et qui se traduit aussi sur le plan idéologique. C'est-à-dire que effectivement, les peuples, que ce soit le peuple ukrainien, le peuple bélarusse ou le peuple russe lui-même, d'ailleurs, faut pas l'oublier quand même celui-là, n'ont strictement aucune importance aux yeux de Vladimir Poutine. Les gens n'existent pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut aussi facilement les assassiner et commettre les crimes de guerre massifs qu'il a commis depuis 22 ans quand même, depuis 22 ans. Faut jamais l'oublier. Ça traduit aussi, c'est quand même ça, cette vision du monde. C'est une vision qui est intimement liée au crime, dès ces premières années que je décrivais tout à l'heure, mais qui traduit aussi, je pense, une Weltanschauung, comme on dit, c'est-à-dire une vision du monde qui lui est propre, où les personnes n'ont aucune importance. Et c'est aussi ce facteur d'éloignement complet avec nos valeurs telles qu'on les défend en Europe et dans les démocraties qui apparaît très frappant à cet égard.
Et comment est-ce qu'on pourrait caractériser la manière qu'il avait, en tout cas jusqu'à l'Ukraine, enfin peut-être même ici y compris l'Ukraine, de s'y prendre? C'est-à-dire quels sont les outils, comment dire, depuis le début, depuis 22 ans? Alors il y a le militaire, par exemple, on sait que il a essayé de reconstruire l'appareil militaire russe, on en voit toutes les limites aujourd'hui, mais ça a été quand même une de ses obsessions. Mais en même temps, on peut argumenter aussi que il s'en est pas beaucoup servi jusqu'en 2022, quoi. Que c'est surtout de la stratégie indirecte qu'il a fait jusque là, c'est des stratégies d'influence, c'est du diplomatique, etc. C'est-à-dire comment est-ce que, s'il fallait faire en quelque sorte un playbook poutinien, comment est-ce qu'il a ici pris pour peser en quelque sorte dans les affaires du monde, alors même que vous le rappeliez tout à l'heure, la Russie un peu boxe au-dessus de sa catégorie si on prend la puissance économique, la puissance démographique, etc. Ça fait longtemps qu'ils ont une puissance bien plus importante que celle-là. Donc quels ont été, disons, les outils et les leviers de Vladimir Poutine depuis une vingtaine d'années?
Alors il y en a plusieurs. Effectivement, vous avez raison d'abord de le rappeler sur le plan militaire. L'armée s'est considérablement modernisée en termes, je dirais, de technologie militaire, notamment pour des armes de haute précision, des missiles, un certain nombre, je dirais, de toute la composante nucléaire, hein, aussi bien tactique que stratégique, qui a été très fortement. Et d'ailleurs, la part en termes de PIB dévolue à l'armée est absolument considérable par rapport à n'importe quelle autre nation. Bon, donc, c'est-à-dire que aussi, il faut savoir que c'est aussi la société, l'économie, le peuple russe qui ont été sacrifiés en raison, je dirais, de cette expansion militaire. Le militaire est un instrument. Alors, le militaire, c'est un instrument quand même qui a beaucoup servi. D'abord, il a servi quand même en Géorgie, enfin Tchétchénie d'abord, mais enfin, il a servi en Géorgie de manière massive, puisque quand même, vous avez 20% du territoire géorgien est toujours occupé aujourd'hui. Vous avez aussi toujours des forces russes, alors c'est un petit pays pour le coup, en Moldavie, hein, dans la région de Transnistrie, et la Syrie. La Syrie, ça a été quand même un terrain d'expérimentation des armes absolument massif. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les militaires russes l'ont dit, le ministre de la Défense russe, Shoigu, l'a dit clairement, ça a été un terrain d'essai de nouvelles armes. Ils ont essayé. Alors, sauf que là, vous n'aviez pas de forces au sol russes, puisque c'était plutôt les Iraniens qui étaient des forces au sol, évidemment les sbires d'Assad. Mais en termes de capacité de frappes aériennes et de missiles, ça a été quand même extrêmement, extrêmement marqué, extrêmement, extrêmement puissant. Je rappellerai d'ailleurs toujours qu'en Syrie, l'armée russe a tué elle-même, je ne parle même pas des crimes contre l'humanité d'Assad, plus de civils syriens que même Daesh. C'est un point quand même qu'il faut toujours rappeler. Il ne faut jamais oublier ce facteur-là. Alors, en revanche, de stratégie, donc, vous aviez cette composante militaire, vous avez eu toute la composante, vous en avez déjà parlé dans le collimateur, mais toute la composante de désinformation et de guerre de l'information, qui a été quelque chose de massif, et qui s'est mis en place surtout après la guerre de Géorgie. Ça a été d'ailleurs reconnu par la grande patronne de Russia Today, Margaret Simonian, qui a dit clairement qu'il y avait eu de telles erreurs en Géorgie sur ce monde de l'information, qu'ils ont boosté complètement cette guerre de l'information, qui lui ont aussi dévolu des moyens absolument considérables, et toujours en augmentation, avec des effets réels, on ne va peut-être pas y revenir dans l'immédiat, sur la population. Ça a été quelque chose de très fort. Mais je pense que l'instrument essentiel de Poutine, ça a été l'instrument diplomatique. C'est-à-dire que, en fait, on peut dire que depuis 22 ans, Poutine a toujours gagné ses guerres. Il n'a jamais eu en face de lui, sauf récemment, et encore pas suffisamment, on en reparlera peut-être, de forces d'opposition qui auraient permis de le faire reculer. Je pense que ça, c'est un facteur très important. Pourquoi ?
C'est-à-dire
que vous avez
c'est
eu ce jeu
diplomatique. C'est pour ça ces acquisitions allaient parcimonieusement. C'est ce que je disais quand je disais qu'ils ne sont pas tellement servis de l'hostilité militaire. C'est si on compare aux États-Unis, enfin aux Occidentaux qui sont engagés dans des occupations, dans des opérations d'occupation de pays. La Russie, depuis 22 ans, ils ont fait des petites opérations, des petits coups de main.
Encore une fois, petites, je relativiserai un peu. Vous n'avez certainement pas eu d'opération, évidemment, de la taille de la guerre, la deuxième guerre d'Irak, ça c'est tout à fait évident, ni même de l'opération en Afghanistan. Ça, c'est exact. En revanche, quand même, vous avez eu cette opération. En Géorgie, je veux dire, c'était quand même pas totalement rien. En Ukraine, 2014... C'est quand même une guerre massive. C'était déjà une guerre massive, une guerre qui a fait quand même 14 000 morts, 1,6 million de déplacés, avec, même quand la guerre s'est plutôt refroidie à partir des accords de Minsk 2 en 2015, vous avez eu toutes les années quand même des soldats ukrainiens tués. Et même en 2021, alors qu'on disait qu'il n'y avait pas de guerre. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une nouvelle guerre, c'est une continuation ou un renforcement de la guerre existante. En 2021, vous avez eu encore 80 soldats ukrainiens qui ont été tués par les forces russes. C'était déjà quand même une guerre assez puissante. Quand vous voyez l'arsenal qui a été déployé en Syrie, il est quand même là aussi extrêmement fort. Mais ce qui est très frappant, c'est que pourquoi est-ce que Poutine a gagné ? C'est qu'il a toujours laissé croire aux Occidentaux qu'il y avait une porte de sortie, qu'il y avait une possibilité de négocier avec eux. Et il a vu, en quelque sorte, de la réalisation de cette prophétie autoréalisatrice qu'il avait annoncée sur l'Occident, vous savez, décadent, efféminé, faible, apeuré, etc. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est-à-dire que, et ce qui lui a donné d'ailleurs un élément qui est assez attractif d'ailleurs aussi pour une partie des extrêmes droites, voire extrêmes gauches européennes, de l'homme qui en a, qui est puissant, qui va jusqu'au bout, par rapport à des dirigeants, on le voit encore aujourd'hui quand même, qui ont peur, qui disent « là, il ne faut pas provoquer M. Poutine ». La stratégie de non-provocation et de non-réponse, ça a été un facteur qui a permis à Poutine d'aller toujours, toujours plus loin. Quand je dis qu'il a vraiment gagné toutes ces guerres, c'est pas qu'il était un maître stratégiste et qu'il avait cette stratégie parfaitement en tête, c'est qu'il a très bien compris les opportunités qu'à chaque fois il pouvait saisir. Et chaque fois, il a réadapté. Alors certains disent, oui, mais l'Ukraine, c'est peut-être le coup de trop. Enfin, je veux dire, la présente, je dirais, offensive depuis le 24 février. À voir. Ça a été catastrophique pour l'armée russe. Plus de 12 000 morts, 20 ou 30 000 blessés. On n'a pas encore toutes les statistiques, ouais, etc.
Il ne faut, faut vraiment pas s'avancer sur les statistiques.
Voilà, et là, soyons extrêmement prudents. Mais en tout cas, il y a quand même eu des pertes vraiment massives. Ça, c'est tout à fait évident. En revanche, il faut voir ce qui va se passer demain. Est-ce que, même pour une autre fois, vous aurez la tentation d'un certain nombre de dirigeants occidentaux de retour au business as usual avec la Russie de Poutine, retour normal, réintégration dans la scène internationale, le lever des sanctions les plus dures, ce qui voudrait dire que, malgré tout cela, ou concession majeure sur l'Ukraine, ce qui voudrait dire, dans ce cas, que Poutine aura encore gagné cette guerre-ci, finalement. You think I can't speak English? There's nothing I don't know. I know that World War III nobody wants to see. So please, EU and USA, don't mother suckers mess with me. Oh, yes, I can. Cause I'm the president with the greatest plan to make my mother Russia number one again. And by the way, I hit better than Jackie Chan. I'm gentleman. Do you want peace or you want a piece of me? I've got gas, you see. Don't play games with me. You want my gas? Well, you can kiss my ass. When I play chess, be quiet or eat my pussy riot. Putin, put out. Putin, put out. Putin, put out. Put out. Putin, put out. Putin, Putin, put out. Putin, put out. Putin, put out. Putin, put out. Put out. Putin, put out. Putin, Putin, put out. Putin, put out. Hey.
Alors justement, est-ce qu'on peut dire un mot de cette deuxième partie du problème, c'est-à-dire la manière dont justement les pays occidentaux le voient depuis des années, Vladimir Poutine, la Russie au-delà, puisque bon, à certains égards il l'incarne en tout cas sur la scène internationale. C'est amusant d'ailleurs parce qu'à l'occasion de la guerre en Ukraine, on a un peu vu ressortir tous les clichés occidentaux en même temps. C'est un peu un test de Rorschach, quoi, c'est-à-dire tout... Parce que, en fait, devant un geste aussi choquant et parfois perçu comme absurde ou irrationnel, tout le monde est revenu à ses catégories préexistantes sur ce qu'on pensait de Poutine, de quel genre de personnage il était. Donc, pour certains, c'était le pragmatisme, donc qui avait forcément une logique. Pour d'autres, c'était l'homme fort qui comprend que la force. Pour d'autres, c'était le joueur d'échecs qui a toujours 8 coups d'avance. Pour d'autres, c'était l'agent du KGB qui maîtrisait la dissimulation. Enfin, tout le monde est revenu à ses clichés préexistants, en quelque sorte, sur Vladimir Poutine. Donc, je pense qu'on peut dire assez sûrement que tout est un peu idiot là-dedans. Tout est un peu vrai, tout est un peu faux. Et je sais pas si c'est très utile de vouloir faire entrer au chausse-pied quelqu'un dans une case définie. Mais, en tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ces prismes occidentaux qui existent depuis longtemps, qui ont un peu évolué, mais qui sont là quand même depuis un certain temps, pour comprendre, disons, la personnalité et les intentions de Poutine?
J'ai envie de répondre que c'est Raymond Aron qui en parle le mieux. C'est-à-dire que, évidemment, Raymond Aron est mort en 1983, donc évidemment, bien avant la, je dirais l'arrivée au pouvoir de Poutine et même l'effondrement de l'URSS. Mais quand vous lisez Raymond Aron, il mettait déjà en garde contre un certain nombre d'erreurs, voire de fautes d'intelligence, que les Occidentaux, ou en tout cas la plupart d'entre eux, ont commises. Premièrement, confondre le pays et le régime. Raymond Aron écrivait à un moment, je n'ai plus la citation exacte en tête, il disait, mais si en URSS, vous aviez un autre régime que celui de Staline ou de Brejnev, eh bien, la situation serait complètement différente. On ne peut pas considérer les nations sous une forme d'intemporalité en raison de leur histoire ou de leur géographie, indépendamment de la nature du régime. Et c'est vrai qu'un grand nombre de dirigeants occidentaux ont eu tendance à parler de la Russie, ce que personnellement je ne fais jamais, plutôt que du régime russe.
Et là, vous êtes dur si vous empêchez les gens de faire des gros clichés sur l'âme russe et la Russie intemporelle.
Mais voilà, voilà. Vous avez là, voilà, sur leur, tout le monde citait. Alors, on va citer Moussorgski, on va citer Pushkin. Voilà, peu importe d'ailleurs quelle est la référence. Voilà, les superbes monuments, les palais de Saint-Pétersbourg, ils sont extraordinaires. Hein. J'ai été pendant 2 ans enseignant, invité à l'université de Saint-Pétersbourg en 2006-2007. 2008, j'y allais une semaine tous les 3 mois. J'ai profité de cette ville, effectivement, qui était merveilleuse, bien sûr. Mais justement, c'est que l'histoire russe et les grands personnages ou les grandes œuvres de l'esprit russe ne disent rien sur la nature du régime. Et vous avez cette espèce de romantisme, je dirais un peu mièvre, un peu digne de la série Harlequin, qui a, je dirais, envahi l'esprit d'un certain nombre de dirigeants occidentaux. Deuxième notion que Raymond Aron pointait, c'est la notion d'intérêt. Et il disait que la notion d'intérêt, elle ne pouvait pas être liée à la nature du régime, à l'histoire du pays et à sa géographie, mais qu'elle était liée à des représentations mentales que chaque régime avait. Et que d'ailleurs, du côté occidental, et il disait ça très explicitement, dans la notion d'intérêt, il ne faut pas tenir compte, bien sûr, de la sécurité, qui est un élément majeur, des intérêts économiques, bien sûr, qui sont tout à fait réels, mais aussi des intérêts en termes de préférences intellectuelles, en préférences politiques, y compris, bien sûr, les libertés, les droits de l'homme, etc. Et donc, là aussi, Raymond Aron est rentré, disait, en quelque sorte, par avance, la nature. C'est-à-dire que certains dirigeants occidentaux, oui, mais en fait, Poutine agit en fonction des intérêts russes. D'abord, s'il avait agi en fonction des intérêts russes, eh bien, sans doute, il n'aurait pas complètement sacrifié son peuple. Il aurait essayé de faire de la Russie une grande puissance économique, intellectuelle, de recherche, etc. Et donc, il aurait eu besoin de la coopération, il aurait saisi la main, il aurait coopéré. Donc là aussi, c'est quelque chose de totalement, totalement faux. Et puis, il y a une troisième chose aussi que disait assez bien Aron, c'est que si nous voulons traiter avec un régime, nous devons aussi faire beaucoup plus attention aux récits que nous employons. Cette conception des récits russes, à mon avis, et la manière dont ces récits se sont petit à petit infiltrés dans l'esprit et dans la parole d'un certain nombre de dirigeants occidentaux n'a pas suffisamment frappé. C'est-à-dire que, bien sûr, vous aviez toute la propagande russe dure, en quelque sorte. Hein. Vous savez, sur les nazis d'Ukraine, sur les terroristes, évidemment, en Syrie, alors que c'était uniquement des rebelles opposés à Assad.
C'était pas uniquement des rebelles, et il y a des nazis en Ukraine.
Cette espèce de, si vous voulez, de simplification globale qu'on a vu ressurgir, si vous voulez, à cette occasion, sur les États-Unis ou la France sont en train de préparer des attaques chimiques. On a vu ça à un moment sur un général qui disait que les services français et belges préparaient des attaques chimiques en Syrie. Enfin, bon. Donc tout ça, vous avez ces espèces de tout, ces récits de la propagande. Mais vous avez aussi d'autres récits qui, à mon avis, sont des récits beaucoup plus doucereux et beaucoup plus dangereux. Et aussi, disons, répétés par un certain nombre de gens pour le moins complaisants avec la Russie et qu'on voit d'ailleurs ressurgir aujourd'hui. On dit, mais finalement, peut-être que l'Ukraine a commis des fautes. Encore aujourd'hui, à la télévision, après le 24 février, vous voyez des gens à la télévision dire, oui, mais enfin, les fautes sont quand même partagées. Mais on n'a pas assez tenu compte de la menace russe. Ou on n'a pas, ce qui est totalement faux, discuté suffisamment avec la Russie. Il faut tenir compte des considérations et des représentations de monsieur. Donc vous avez tous ces facteurs d'explication. Qui sont extrêmement présents. Et quand, justement, Raymond Aron, lui, disait « Mais attention, voyons aussi les récits de l'Union soviétique et essayons de ne pas nous affaiblir en donnant des récits de circonstances atténuantes », il disait des choses qu'on a vues aussi se reproduire de manière très, très forte dans les circonstances présentes, et j'y insiste, encore aujourd'hui. La quatrième chose... c'est qu'on voit aussi un certain nombre de personnes qui, précisément parce qu'ils ont ces idées de l'État ou, on l'évoquait tout à l'heure, des grandes puissances qui comptent plus que d'autres, se disent « mais Il faut offrir une porte de sortie à M. Poutine, il faut lui donner l'occasion de sauver la face, et puis de toute manière la Russie est un pays trop grand pour qu'elle puisse disparaître et qu'on puisse la menacer durablement par des sanctions, too big to fail. Vous avez tous ces récits que l'on voit ressurgir, qui sont des composantes de ce que j'avais appelé une fois dans un papier la géopolitique archaïque, c'est-à-dire vraiment des composantes, des récits totalement faux dans l'interprétation, à mon avis, des relations internationales. Et Poutine et son entourage, bien sûr, ont parfaitement compris ça. Et enfin, cinquième élément et dernier élément à ce propos, je pense que les gens n'ont pas assez prêté attention aux composantes idéologiques de la pensée de Vladimir Poutine. C'est pas parce que vous êtes un malfaiteur et un criminel que vous n'avez pas d'idéologie. L'idéologie peut être aussi un moyen de justifier le crime. Et quand on regarde de près les inspirateurs de Poutine, hein, vous avez par exemple l'un qui est un des plus connus, qui est Ivan Iline, qui est mort en 1954, hein, donc Poutine n'a pas connu, mais qui est un des inspirateurs, qui fournit l'épine dorsale de la pensée non seulement eurasiste, nationaliste de Poutine, avec d'autres qui ne sont pas nécessairement proches de lui.
Oui, je pense qu'il va falloir que vous ayez la générosité de nous résumer cette pensée, parce que je soupçonne qu'on n'est pas forcément tous au clair dessus.
Voilà, c'est-à-dire que c'est une pensée, d'abord, qui, évidemment, glorifie la slavité, de la même manière que Hitler glorifiait la germanité, ce qu'on voit apparaître dans le discours de Poutine, plutôt dans le grand texte de Poutine du milieu de l'année 2021, juin ou juillet, je ne me rappelle plus, où il explique que, par exemple, les Ukrainiens et les Russes sont un seul peuple. Et donc, c'est la slavité. Et ça, et c'était déjà son discours en 2014. Bon. Deuxièmement, vous avez toute une composante, je dirais, nationaliste, identitaire, naturaliste, c'est-à-dire que vous avez les vrais Russes par rapport aux autres peuples. Donc avec, je dirais, appliqué en quelque sorte à la Russie, un peu une conception de l'Übermensch, donc du surhomme germanique. Vous avez aussi toute la composante qui était très présente, qui est présente chez Douguin, par exemple, alors qui n'est pas un proche de Poutine, d'ailleurs il a compris qu'il était trop sulfureux, mais qui est quand même un inspirateur, que l'on voit dans les cercles du Kremlin, qui a quand même reçu Alain Soral, en Russie, volontiers. Vous prenez aussi un groupe qui est très proche de Poutine, alors c'est une idéologie très sommaire, les fameux motoristes ou bikers, enfin vous savez les night wolves, les loups de la nuit, c'est-à-dire et Poutine a chevauché, c'est des grosses motos avec eux.
Il y a des photos de Vladimir Poutine en biker.
Et donc il est voilà, et oui vous avez cela, et donc il se délève avec des escouades de motos portant des insignes, mais qui sont un groupe ultra nationaliste. Que Poutine a très souvent loué, il est allé faire des choses avec eux, y compris, je dirais, en Crimée, dans des grandes, des grands rallyes. Vous avez cette idée de, je dirais, de la mort. Quand vous prenez quelqu'un comme l'un de ceux qu'on présente comme le confesseur, je ne sais pas s'il confesse vraiment, d'ailleurs, confesseur de Poutine, hein, le père Tikhon Chevkounov, qui est aussi un prêtre, mais quand même avec des fortes... fort anti-sémite, hein, il faut bien le dire, qui apparaissent bien sûr chez Douguin aussi, et qui apparaissaient déjà chez Iline également, vous avez toute cette composante. En fait, j'ai fait un très long papier sur le sujet, je ne vais pas donc m'étendre trop longtemps là-dessus, mais vous avez cette composante qui est un mélange assez composite, qu'on trouve aussi très bien décrit dans le livre de Timothy Snyder, The Road to Unfreedom. La route vers l'absence de liberté. Il n'est pas traduit en français, mais c'est un ouvrage absolument remarquable, qui décrit toutes ces sources idéologiques de la composition. Donc vous avez un mélange de nationalisme, de racisme, d'antisémitisme, de conservatisme un peu traditionnel sur les valeurs, des éléments d'emprunt au soviétisme, que l'on voit réapparaître d'ailleurs avec le culte de Staline. Tout ceci sur fond de réécriture de l'histoire et de refus, bien sûr, de l'histoire réelle, dont le symbole, pour moi, le symbole absolu de tout cela, ça a été la liquidation de Mémorial, qui apparaît clairement...
Mémorial, rappelons que c'est l'association qui avait notamment beaucoup œuvré pour documenter, disons, les victimes du régime soviétique et qui a été liquidée il y a quelques mois par décision administrative. Donc, en gros, ce que vous nous dites, si je résume à très gros traits, c'est qu'on a beaucoup voulu y voir un pragmatiste, un homme d'État, quelqu'un qui défendait des intérêts de manière un peu dépassionnée de la Russie, sans voir qu'il y avait une sous-couche idéologique assez constituée, même si un peu désordonnée, ce que vous êtes en train de nous décrire, qu'il aurait peut-être fallu prendre au sérieux.
Et, oui, avec derrière, moi je l'ai interprété comme ça, derrière ce qui apparaît quand même, c'est quelque, enfin pour moi la composante majeure, ça a été trop peu dit, là aussi j'ai analysé ça assez longuement, mais je ne vais pas revenir en détail là-dessus, c'est le nihilisme, c'est-à-dire le goût de la destruction. Alors destruction, bien sûr, des valeurs occidentales fondamentales, notamment, bien sûr, les droits de l'homme, c'est-à-dire que le fait que Poutine commette depuis si longtemps des crimes de guerre ouvertement, pour moi, la Syrie a été le tournant. C'est-à-dire que pour moi, ça a été ce qui montrait la véritable nature du régime de Poutine. Songez qu'à cette époque, les dirigeants occidentaux disaient encore, dans les enceintes de l'ONU, il faut demander à M. Poutine de calmer Assad sur ses crimes de guerre, alors même que Poutine en commettait. Vous aviez ce discours-là. Vous avez encore tout ce discours qu'on voit encore aujourd'hui. Il n'y a jamais que de solutions diplomatiques et pas de solutions militaires. Donc, je pense que vous avez cette composante de destruction nihiliste qui, à mon avis, est vraiment première, qu'il faut prendre extrêmement au sérieux, parce que s'il n'y avait pas cette composante nihiliste, Poutine n'aurait pas aussi détruit son pays. C'est-à-dire, c'est un peu le, vous savez, comme le slogan punk d'il y a très longtemps, le no future, en quelque sorte. Et c'est le no future aussi qui caractérise Poutine. Le no future pour l'Occident, mais le no future aussi pour la Russie elle-même.
Mais alors du coup, qu'est-ce que ça a révélé de tout ça, selon vous, l'aventure de la guerre en Ukraine? C'est-à-dire, comment est-ce que c'est ça, c'est le nihilisme, donc on engage tout, on parie tout? Je vous ai lu dans un papier prendre l'exemple du joueur de blackjack, je crois. C'est-à-dire, c'est pas un joueur de poker ou d'échecs, c'est un joueur de blackjack, au sens où il mise tout, il s'en fiche. Enfin bon, ceux qui ont déjà joué au blackjack savent à peu près de quoi je parle. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'ils ont pu en venir à ce projet de prendre, renverser l'Ukraine, qui était honnêtement assez délirant sur le papier, d'envahir un pays aussi gigantesque que l'Ukraine, qui est quand même assez différent, qui est en guerre depuis 2014. Puis qu'est-ce que ça montre de cette vision du monde, et du Kremlin et de Vladimir Poutine en particulier?
Alors, vous savez, il y a un élément que Hannah Arendt mettait au cœur des régimes totalitaires, ce qu'est de plus en plus la Russie de Poutine, même si ce n'est pas un totalitarisme au sens de, encore, en tout cas de Hitler ou de Staline. C'est le mouvement. Et je pense que c'est ce mouvement perpétuel qui aujourd'hui est peut-être une des clés explicatives, je me méfie de toutes les autres métaphores, une des clés du système de Poutine, qui est lié aussi à sa propre perception de l'histoire et des dirigeants occidentaux. Qui fait effectivement que les dirigeants ont toujours cédé. Et il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'ils vont céder? Ils céderaient encore une fois cette fois-ci. Et encore une fois, on n'est pas à la fin de l'histoire, hein, sur cette histoire du dernier conflit contre l'Ukraine. Donc, essayons d'avoir le mouvement. C'est-à-dire qu'il a besoin toujours d'avancer, toujours de conquérir, toujours, évidemment, de détruire. Et que la question de la rationalité, qui faisait que certains, vous l'avez rappelé, disaient « mais il n'ira pas jusque-là, tellement c'est absurde, parce que ce sera terrible pour l'armée russe, ça va amener strictement rien, le gain pour la Russie sera finalement assez faible ». Mais je pense que même le terme de rationalité, on ne peut même plus raisonner en termes de rationalité ou d'irrationalité. On est par-delà, en quelque sorte, je dirais, ce type de considération. Donc il a tenté le tout pour le tout. Encore une fois, on ne sait pas aujourd'hui s'il a gagné ou perdu. J'insiste quand même beaucoup là-dessus, malgré la résistance héroïque des forces ukrainiennes, les sanctions fortes, pas assez à mon avis encore. Mais donc il s'est engagé dans cette aventure en se disant « mais de toute manière, je vais parvenir encore plus à déstabiliser l'Occident ». Et finalement, je pense que c'est son pari, et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention à la suite. L'Occident, in fine, cédera. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des solutions. Alors, ils vont me bouder, ils vont me faire les gros yeux, d'accord. Mais, in fine, je parviendrai à sauver ma peau, c'est-à-dire concrètement à sauver mon pouvoir et ma richesse.
C'est-à-dire, c'est un peu ce truc, ce cycle qu'on voit depuis 2014 ou 2008 ou même avant de... On a l'impression qu'on a des cycles de 8 mois, 1 an, 2 ans de... Bon, bah, la Russie fait un truc pas bien... Tout le monde est scandalisé, il y a des sanctions. Puis il y a quelqu'un qui dit qu'il faudrait faire un geste diplomatique, puis il y a quelqu'un qui dit qu'il faudrait réintroduire la Russie dans le concert des nations, etc. Et que, en fait, et puis après, la Russie refait un truc inacceptable et que du coup, ça tourne en rond.
Ça tourne en rond, et c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'avec la Géorgie, puis l'Ukraine 2014, puis la Syrie, un certain nombre de dirigeants occidentaux n'ont pas véritablement compris. Je veux dire, quand au début de sa présidence, Joe Biden parlait, je cite, qu'il souhaitait une relation stable, prévisible, hein, stable, predictable relation with Russia, avec une relation prévisible et stable avec la Russie, je pense qu'il se mettait, il se fourvoyait complètement. D'ailleurs, il a bien compris et aujourd'hui, il le comprend parfaitement. Quand le président Emmanuel Macron, d'ailleurs, parlait d'un projet d'architecture de sécurité et de confiance, le terme confiance, je veux dire. Là aussi, ça me paraissait quelque chose, je l'ai dit très clairement à l'époque. Comment est-ce qu'on peut imaginer une relation de confiance? C'est-à-dire qu'on devrait percevoir un fait simple qui aujourd'hui est attesté, c'est qu'il n'y aura pas de paix, de sécurité et de stabilité en Europe tant que M. Poutine sera au pouvoir. Et tu vois, vu là, les dernières paroles de Joe Biden, alors c'était sous la forme de la prière, hein, « For God's sake, il faut que ce régime disparaisse », il disait cela pas comme seulement une invocation morale, même s'il y avait évidemment un choc moral après les multiples oradours sur glane qui ont été commis à Mariupol, parce que c'est comme ça la réalité, c'est comme des dizaines d'oradours sur glane à Mariupol et ailleurs. Mais c'était aussi une réflexion stratégique, c'est-à-dire aujourd'hui...
Oradour sur Glen, hein, bon, c'est spécial quand même. C'est, oui, mais enfin, on enferme des enfants dans une église,
oui,
on y met le feu, c'est pas exactement
oui,
la même
mais
chose.
Sauf que si, quand vous avez des enfants qui sont, ou des personnes civiles qui sont bombardées dans des centres, je dirais, en Ukraine, à Mariupol, ou certains à Kharkiv, mais surtout Mariupol, quand vous tirez sur tout ce qui bouge dans les rues de Mariupol, vous avez des phénomènes de destruction... qui sont, alors vous pouvez prendre beaucoup d'autres exemples, hein, vous pouvez parfaitement prendre aussi en termes d'assassinat massif, Saladour sur Glane parle à mon avis aux Français, parce que c'est quand même cette réalité de délibérer, de tuer. Mais vous avez ce qui s'est passé à Alep. D'ailleurs c'est intéressant de voir que François Delattre, l'ambassadeur de France à l'époque auprès des Nations Unies, a parlé de Guernica à propos de ce qui se passait à Alep, et on a vu l'autre jour Jean-Yves Le Drian, lors d'une conférence à Doha, reprendre le terme de Guernica pour caractériser Mariupol. Alors peu importe la métaphore. La métaphore, c'est que vous avez derrière eu une volonté délibérée de tuer des personnes. Et que quand je dis en termes de... Pourquoi c'est des dizaines de fois oradour sur glane, c'est-à-dire que les victimes civiles, encore une fois, délibérées, tuement tuées. C'est-à-dire c'est le côté délibéré qui est important. Je veux dire, c'est à peu près... C'est évidemment l'équivalent. En termes de monde, il y avait plus de 5000 personnes. On n'a pas le chiffre, le bilan encore toujours, mais ça, il y en a au moins 5000, ça a été attesté, à Mariupol.
Ouais, mais alors, du coup, comment est-ce que... Bon, que faire, comme dirait l'autre. Mais où est-ce qu'on va à partir de là? Et en fait, ça pose la question qui rejoint le questionnement depuis tout à l'heure, c'est à quoi est-ce qu'il répond, Vladimir Poutine? Quels sont les genres de leviers, de pression, de gestes? À quoi est-ce qu'il est sensible? Est-ce que les sanctions, c'est quelque chose qui est réel, qui est perceptible, qui est tangible, qui est efficace? Et si oui, comment? À quelle échéance? Et pourquoi? Voilà. Est-ce que s'il y a que l'échec militaire qui comprend, et on est dans un demi-échec militaire en tout cas pour l'instant, selon vous, comment est-ce qu'on dialogue, y compris par la force, avec un... Ben non, mais c'est la force et faire la guerre, c'est aussi dialoguer par d'autres moyens. Mais donc, comment est-ce qu'on envoie des messages? Comment est-ce qu'on influe sur le comportement du régime russe actuel?
C'est la question décisive. D'abord, j'allais dire, il y a comment on n'influe pas. Plus rapidement, on n'influe pas en le cajolant, en ne le provoquant pas, en ne disant pas son fait, y compris sur le fait que c'est, pour prendre l'expression de Joe Biden, c'est à la fois un tueur, Kela, un boucher et un criminel de guerre. Il faut arrêter, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Appeler un chat, je pense que c'est quand même le préalable, d'abord parce que ça a des conséquences juridiques. Bon, ça, donc, ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, premièrement, bien sûr, les sanctions. Elles sont indispensables. Les sanctions fortes qui ont été décidées récemment, nous avons été quand même plusieurs à les demander depuis très longtemps. Concrètement, depuis 2014, c'est-à-dire que je pense que des sanctions fortes, à un certain moment, je dirais en 2014, encore une fois, ça a un impact. notamment évidemment les sanctions qui visent délibérément. Alors, dans les sanctions, vous avez plusieurs catégories, bien sûr, il n'y a pas une. Mais je pense que les sanctions sur le premier cercle du pouvoir de Vladimir Poutine, pas seulement les oligarques, mais également les patrons des chaînes de télévision, des outils de propagande. Vous savez, il y aurait dû y avoir 5000 personnes, hein, on pouvait parfaitement les identifier.
Oui, mais vous voyez, si on l'avait fait depuis 2014, il resterait moins de choses à faire. Alors on peut dire que peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, mais c'est toujours, et c'est ce qui est très perceptible dans le discours des dirigeants occidentaux, c'est l'idée de se laisser des marge de progression, enfin qu'on puisse toujours monter dans les sanctions, parce que si on va directement au maximum, après, bah, s'il continue à faire ce qu'il fait,
sauf qu'il y a un moment, encore une fois, moi je ne suis pas de ceux qui disent les sanctions ne marchent pas. Je pense qu'elles ne sont pas suffisantes, je vais y revenir. Elles ne sont bien sûr pas suffisantes. Mais quand même, ce sont des éléments majeurs, tout simplement parce qu'on voit déjà quand même quelques petits tiraillements dans le milieu des oligarques russes qui n'apparaissaient pas, dans certains cercles proches du pouvoir.
À quoi est-ce que vous le voyez depuis Paris ?
On le voit déjà parce que vous avez un certain nombre d'oligarques qui ont pris déjà leur distance, tout simplement pour sauver quand même aussi leurs biens, parce qu'ils ont des intérêts économiques puissants.
Mais leur distance, deuxièmement, quoi, vous avez quand même. Ils sont partis ?
Alors il y en a certains qui ont commencé, je dirais, à partir, oui, ou qui étaient déjà à l'étranger et qui ne vont surtout pas revenir. Alors aussi pour protéger bien sûr leurs biens, il y a un cynisme de leur part absolu et je ne vais certainement pas tout à coup, les bénir ou les féliciter. Mais bon, c'est une réalité que pour une série de personnes russes, notamment des classes moyennes ou classes supérieures, sans être des gens très très riches comme les oligarques, ça a des conséquences. Je le vois chez des gens que je connais. Ils peuvent plus envoyer de l'argent s'ils sont à l'étranger à leur famille en Russie. Et s'ils sont en Russie, ils ne peuvent plus envoyer de l'argent à l'étranger. Ils ne peuvent plus voyager. Ça commence au bout d'un certain temps, ça ne va nécessairement avoir des conséquences pour la société. Ensuite, vous avez.
Ils ne peuvent plus voyager en Europe.
Pardon ?
Ils ne peuvent plus voyager en Europe, aux États-Unis.
Alors, ils peuvent toujours voyager aux Émirats ou en Inde ou en Chine. Oui, mais sauf que souvent, ils ont quand même très envie d'aller en Europe. Et surtout, si vous avez, par exemple, leur conjoint qui aime bien quand même profiter soit de la Côte d'Azur, soit des plages de l'Italie ou de la Grèce, ou quand même des soldes privés chez Hermès ou ailleurs, parce que peut-être qu'Hermès sera bientôt plus en Russie aussi. Bon, donc c'est quand même un inconvénient. Et surtout, un autre élément d'ailleurs, peut-être encore plus important pour eux, c'est qu'ils ne vont plus pouvoir aussi envoyer leurs enfants dans les collèges ou les universités UP et de bon niveau en Occident. Et ça, c'est un facteur qui joue. Donc si vous voulez, ça accroît, c'est pas suffisant, je le répète, mais ça accroît quand même la pression sur le régime, la coupure. Là aussi, on était quand même plusieurs à le proposer depuis longtemps, la coupure de SWIFT, hein, notamment donc le système de transferts bancaires internationaux, ça a été un facteur majeur. Donc tous ces éléments-là mettent la pression, je pense, sur le régime. Maintenant, ça ne suffit pas. Je suis de ceux qui disent aujourd'hui que la question aujourd'hui n'est plus celle, pour reprendre les termes de la guerre froide, mais je ne ferai jamais de comparaison avec la guerre froide et ce qui se passe aujourd'hui. Je suis très vraiment là-dessus, je pense qu'il faut vraiment séparer chaque période historique autant que possible. Je pense que aujourd'hui, le containment ne suffit plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment passer au rollback. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'à la fin de cette guerre en Ukraine, si fin il y a, parce que ça peut être, on peut aussi avoir une stratégie d'enlisement pour plusieurs années, hein, ça fait partie des hypothèses tout à fait possibles, voire raisonnables. Il ne faut pas considérer que, comme l'avait dit un ancien des ministres des Affaires étrangères dans un article, à mon avis, assez détestable en 2017, il faut prendre nos pertes sur la Syrie et la Crimée. Je pense que ce genre d'attitude n'est pas acceptable, parce qu'on ne peut pas accepter si on croit au droit international, au respect des frontières, aux règles fondamentales. Donc il y a un moment où il faut riposter.
Je ne sais pas de qui vous parlez, mais je suis préparé que c'est Hubert Védrine. Après, c'est
oui, effectivement, c'est un entretien. Je pouvais relire les articles du février 2017, effectivement, qui est parfaitement clair. Mais je pense que ça fait partie des choses qu'on ne peut pas dire, qui sont inacceptables, mais qui ne sont pas inacceptables uniquement sur le plan moral, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer des victimes comme ça. Ça, c'est, vous savez, ça c'est peut-être ma tradition familiale. Je pense que quand vous avez des crimes de guerre, Ce n'est pas pour rien qu'ils sont imprescriptibles, et je pense qu'il faut le rappeler à l'esprit public, et que nos dirigeants doivent vraiment rappeler, je dirais, ces crimes de guerre jour après jour. Ils auraient dû déjà le faire pour la Syrie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, intervenir. Encore une fois, si on regarde le péché majeur, je ne suis pas le seul à le dire, bien sûr, mais enfin, le péché majeur, ça a été la non-intervention d'Obama en Syrie en 2013, après les attaques chimiques de la Ghouta du régime Assad. Qui s'est, sous ceci, s'est en suivi d'ailleurs par une protection, bien sûr un dédit, une propagande de ces crimes par la Russie alliée du régime Assad. Parce que si on avait envoyé un signal, et je rappelle que le président François Hollande, en 2013, était prêt à intervenir, et voilà, je pense qu'on aurait aussi envoyé un signal à la Russie en disant il y a une vraie frontière. Il y a effectivement. On peut beaucoup discuter des stratégies de ligne rouge, je n'y crois pas beaucoup, mais je pense que quand on en a, il faut effectivement qu'elles soient totalement appliquées. Ensuite, en 2014, je trouve qu'on a, on a laissé faire. Ce qui a d'ailleurs démontré que pourquoi est-ce que François Hollande ensuite et Angela Merkel sont allés dans les accords de Minsk ? C'est précisément parce que les États-Unis ont été faibles. Si aujourd'hui, on voit l'attitude d'un certain nombre de dirigeants occidentaux qui disent « mais on ne va pas intervenir », c'est aussi parce que le président Joe Biden a clairement dit qu'on n'aurait pas d'opération militaire en Syrie. Donc concrètement, moi ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment où l'option militaire, je dis bien l'option militaire, qui doit être certes mesurée, proportionnée, adaptée, tout ce que vous voulez, réfléchie, en tenant compte des risques, reste vis-à-vis de ce régime la seule option. Et je sais que je suis minoritaire en disant cela aujourd'hui, je l'ai dit assez souvent.
Vous êtes minoritaire parce que c'est ce que tout le monde dit, c'est que ben, en fait, la Russie est une puissance nucléaire et que personne n'a envie d'une confrontation ouverte entre l'Alliance Atlantique et la Russie.
Je suis bien sûr d'accord, mais sauf que si à un certain moment, mais je ne dis pas que c'est une solution facile, et je sais que si j'étais président de la République ou responsable militaire, je serais le premier à avoir des hésitations. Je ne pense pas que la position soit facile. Mais imaginez, ça a été très bien dit l'autre jour par Antoine Bandaz d'ailleurs, en disant, mais si on considère que la menace nucléaire d'une puissance nucléaire entraîne la non-intervention des pays occidentaux, et ça vaut aussi, bien sûr, pour la Corée du Nord, ou ça vaut pour la Chine communiste, ça veut dire que ces puissances ont toute latitude pour agir. Et donc là, je pense qu'on est dans ce dilemme sur lequel il faut vraiment réfléchir. Et cela d'autant plus que Vladimir Poutine a toujours dit, déjà en 2014, il a toujours proféré ces menaces d'intervention nucléaire. Il ne les a pas cachées, d'ailleurs, au lendemain du déclenchement de cette nouvelle offensive contre l'Ukraine. Mais aujourd'hui, quel est effectivement le seuil? Et on est effectivement dans un jeu, pour le coup, qui est psychologique, qui consiste, et c'est extrêmement évidemment dangereux, délicat, à tester l'adversaire. C'est-à-dire jusqu'où est-ce que l'adversaire ira? Et là, c'est vrai que Poutine profite de cela pour dire, mais surtout, vous n'intervenez pas, sinon vous serez, c'était son discours déjà il y a de nombreuses années, il a dit en ces termes, sinon vous serez responsable de la Troisième Guerre mondiale.
Ouais, mais là, on parle de l'Ukraine. Enfin, je veux dire, il y a des lignes rouges qui ont été tracées extrêmement nettes, extrêmement réaffirmées, pour le coup, de la part du pouvoir américain et de absolument tout le monde, c'est les frontières de l'OTAN. Voilà, c'est pas un pied en Pologne, pas un pied dans les États baltes, pied dans l'Alliance Atlantique. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on dit que c'est ça la ligne rouge, c'est difficile de dire « Ah non, mais en fait, il y avait l'Ukraine aussi dedans ». C'est compliqué de déplacer sa ligne
mais
rouge.
Mais justement, ça pose toute une question sur laquelle il y a eu beaucoup, beaucoup de réflexions. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la ligne rouge? Est-ce qu'il peut avoir une stratégie de la ligne rouge? Parce que Biden en a répété une autre récemment. Il a dit, et Stoltenberg lui a emboîté le pas quelques jours après, en disant, mais la ligne rouge, c'est l'utilisation d'armes chimiques ou bactériologiques en Ukraine. Sauf que c'était pas très heureux de sa part.
Ah, ça, c'est plus discutable parce que c'est.
Mais voilà, et c'était pas discutable parce que, comme le président de 2013, donc du coup, la crédibilité, ouais, quand même peut être sujette à caution, en tout cas, mal interprétée.
De manière générale, au nom de quoi est-ce qu'on intervient? Alors, certes, c'est des crimes de guerre, mais.
Alors, parce qu'encore une fois, si c'est effectivement parce que ce sont des armes prohibées, on peut dire que les armes à sous-munitions qui ont été très vraisemblablement utilisées en Ukraine sont aussi des armes prohibées. Donc ce n'est plus une question d'armes. Là où vous avez une réflexion, mais je ne prétends pas apporter une réponse, parce que est-ce que vous pouvez parfaitement séparer un pays membre de l'OTAN et un pays non membre de l'OTAN? Et c'est là où j'ai deux interrogations, mais qui sont des interrogations, qui ne sont pas des réponses. Premièrement, on peut parfaitement dire qu'à partir du moment où l'Ukraine est attaquée, c'est la sécurité des autres membres de l'OTAN qui est en cause. Ensuite, vous avez eu des précédents. Je veux dire, en Bosnie, l'OTAN est intervenue, alors qu'évidemment, vous n'aviez pas une implication, une menace directe pour un pays membre de l'OTAN. Donc l'idée que effectivement il y a une frontière de l'OTAN.
Ah oui, il y avait un mandat de l'ONU.
Il y avait un mandat de l'ONU, mais encore une fois dans d'autres circonstances que celles d'aujourd'hui. Mais à partir du moment où l'Ukraine, en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, dit mais vous avez un agresseur, et donc sur le sol de l'Ukraine, je dis bien sur le sol de l'Ukraine, et ça c'est quand même une précision juridique très importante. Nous pouvons demander l'assistance de forces extérieures contre des agresseurs qui se trouvent sur les formes de le territoire ukrainien, ou d'ailleurs dans les eaux territoriales ukrainiennes, je pense une partie de la mer d'Azov. On met dans un scénario de légitimation.
Mais on peut toujours trouver des légitimations.
Non, mais voilà, c'est donc, à mon avis, la question, le problème est politique. Deuxième remarque quand même sur l'OTAN, et c'est là où on a, je pense, une vraie difficulté, parce qu'elle est quand même, je crois, à tenir compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, président Joe Biden a été parfaitement clair sur cette ligne rouge, j'aime pas le terme. Toute frappe sur un millimètre de l'OTAN, ce qu'il a dit à Varsovie, évidemment, entraînera une réplique. Mais, premièrement, vous savez très bien que la réponse n'est pas automatique. L'OTAN...
Rappelons que l'article 5, contrairement à ce qu'on dit parfois, n'est absolument pas automatique.
C'est fondamental de le rappeler. Il faut en plus une décision à l'unanimité du Conseil de l'Alliance, donc les chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance. Et ensuite, un État membre de l'OTAN peut décider lui-même de ne pas participer à ces opérations. Hein, donc, vous avez ces règles-là.
Petite parenthèse,
vous savez que les négociateurs ukrainiens, quand ils ont dit nous acceptons la neutralité, ce qui était déjà le cas en 2014, en vertu du mémorandum de Budapest de 1994, violé par la Russie, c'était déjà un statut de neutralité de fait. Il dit, mais nous acceptons la neutralité, mais avec une garantie équivalente, a dit le négociateur ukrainien, de l'article 5, et il a ajouté, voire plus. Et ce qui est intéressant, c'est le voire plus. Parce que le voire plus veut dire qu'il devrait y avoir une automaticité. Non, ce que je voulais dire par là, au-delà de ce phénomène, mais qui, effectivement, je crois, était essentiel de rappeler, c'est que quelle est la crédibilité à un certain moment de cette parole ? Parce que le risque nucléaire que vous évoquiez a raison tout à l'heure, il sera exactement le même. On n'aura pas un changement de la nature du risque, de notre côté j'entends. Le risque nucléaire, il sera aussi fort si nous intervenons dans le cas ukrainien que si nous intervenons pour défendre un État balte.
Oui, à ceci près que dans un cas, on se perçoit, on se sent dans une posture tout à fait défensive, ce qui donne évidemment beaucoup plus d'acceptabilité sociale et politique au fait de prendre un risque comme ça. Bon.
Mais voilà, non, mais enfin, vous avez ces interrogations, et je pense que c'est cette question de l'interrogation, c'est qu'aujourd'hui, ça supposerait, je pense, toute une réflexion d'ailleurs sur la nature de l'OTAN, sur la garantie de l'OTAN, sur tous ces facteurs-là, c'est effectivement, mais surtout une réflexion stratégique qui n'est vraiment pas simple. Qu'est-ce qu'on fait devant une puissance qui dispose de l'arme nucléaire ? Est-ce qu'on cède, parce qu'il y a le risque réel, ou est-ce qu'on ne cède pas, avec le risque que ça implique ? Et je crois qu'il faut être parfaitement clair sur ce dilemme. Il ne faut pas l'évacuer, et il ne faut pas dire que la solution naturelle, c'est de ne rien faire.
On va donc rester sur ce dilemme qui va probablement être le dilemme des semaines, des mois, voire des années qui viennent. Merci beaucoup Nicolas Tenzer.
Merci à vous Alexandre Jublin.
Je rappelle donc évidemment, les auditeurs peuvent vous suivre sur Twitter, il y a évidemment tous les articles de Desk Russie, vous êtes loin d'être le seul à écrire, vous en êtes le directeur de la publication, ainsi que votre blog personnel, donc Tenzer Strategics. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de remarques, commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM qui sont appréciés, tout comme notes et commentaires par les outils d'Apple Podcasts ou de SoundCloud, ainsi que le fait que vous recommandiez le podcast et ses différents formats autour de vous. C'est comme ça qu'il continue à grandir en audience toujours plus. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.